Ce soir, on va laisser le Seigneur parler à nos cœurs. Il est important quand on se réunit ou quand on lit la parole de Dieu chez nous, chacun chez soi, il est important quand on lit la parole de croire que quand on est en train de lire, c'est comme si Jésus était en train de nous parler. Parce que si je le prends pas dans cette idée-là, c'est comme si c'est un livre comme les autres. Mais ce livre-là, il est surnaturel. Ce livre-là, c'est une puissance que Dieu nous a laissée qui peut changer nos vies en autant qu'on y met notre foi. Puis si on y croit que c'est Jésus qui parle, puis c'est vraiment des passages que Jésus a parlé, si on y croit, on va voir la main de Dieu agir dans notre vie puis transformer notre pensée. Parce que c'est la première place que le Seigneur va agir, c'est dans nos pensées. Il veut changer notre mauvaise manière de penser pour nous mettre la pensée de Dieu. On va prier le Seigneur pour qu'il nous inspire par sa parole. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour le temps qu'on va avoir autour de ta parole. Je te demande de parler à nos cœurs ce soir. Ce qu'on veut, Seigneur, c'est que tu fasses un impact, que nos vies changent, qu'on soit transformés, qu'on devienne de plus en plus conforme à ta parole, parce qu'on veut, Seigneur, marcher dans une manière qui te soit agréable. Fait que je remets ce temps de partage entre tes mains. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. On ouvre nos Bibles dans Jean chapitre 12 à partir du verset 23, on va aller jusqu'au verset 28. Jésus, pour vous mettre dans le contexte, il était juste sur le bord, un peu avant d'aller mourir sur la croix. Puis il savait qu'il était pour aller mourir sur la croix. Puis pour lui, c'est un temps qui était bien difficile. Il était comme angoissé un peu, troublé un peu. Puis quand on le voit dans le jardin de Gethsémané, quand il a prié, il était vraiment angoissé, puis il suait des grumeaux de sang tellement que ça le tourmentait. C'était quelque chose d'assez grave pour lui. Puis ça l'aurait été pour chacun de nous. Puis Jésus, au verset 23, il est en train de dire, il leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Mais Père, glorifie ton nom. On va méditer ces paroles-là. Puis on va s'en faire comme une ligne de pensée pour 2012. Parce que, comme on le sait, à tous les ans, il y a comme une coutume, tout le monde prend des résolutions quand il commence une nouvelle année. Il se dit, bon, mais là, je prends une décision, je commence une nouvelle année, puis là, je m'enligne, puis je vais faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais Dieu, y a-t-il un plan pour nos vies? Dieu, y a-t-il un but pour nos vies? Dieu, y a-t-il une vision pour nos vies? Y a-t-il préparé quelque chose pour 2012 pour nos vies? C'est ce qu'on va regarder. La première phrase, le premier verset, il dit, dans le verset 23, et Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Jésus, là, il était rendu presque à l'âge, il va avoir un pas loin de 33 ans, parce que c'est ce qu'on pense qu'il est mort dans l'âge de 33 ans. Il était sur le bord de dire, il s'en va mourir sur la croix. Il savait quelle heure qui était pour lui. Il dit, c'est l'heure où ce que le Fils de l'homme va être glorifié. Il savait à quelle heure qu'il était rendu, à l'heure du cadran de Dieu, pas à l'heure, il est midi 25, à l'heure du cadran de Dieu pour sa vie, il savait à quelle heure qu'il était rendu. Puis si on se pose la question à nous autres, à quelle heure qu'il est rendu pour chacun de nous dans notre vie? Où est-ce qu'on en est rendu face à Dieu? Maintenant, là, on fait le point. Si ça fait, mettons, moi, ça fait depuis 1980 que j'ai donné ma vie au Seigneur. Comme Jésus ici qui a commencé son ministère environ en 30 ans, il savait que son ministère durait tant de temps, puis il savait que devant Dieu, c'était l'heure de mourir sur la croix. Pour chacun de nous, si on se pose la question, à quelle heure qu'on est rendu, puis là, si on dit, moi, ça fait 2 ans sauvé, moi, ça fait 30 ans, ça, c'est l'âge qu'on est chrétien. Mais devant Dieu, ça se peut-tu que Dieu nous dise, là, il est l'heure que ça change? Où il est l'heure, faut que ça bouge. Restez toujours dans le passage de Jean, parce qu'on va y revenir, mais je vais vous lire d'autres versets à travers ça. Dans 1 Jean 2,18, ça nous dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure. » On cherche quelle heure qui est pour nos vies, là, mais c'est la dernière heure. Quand il s'est dit, comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là, nous savons que c'est la dernière heure. Le 2000 ans, ça nous disait que c'était la dernière heure. Si je me pose la question aujourd'hui, il est quelle heure pour nous face à Dieu? Il reste plus grand temps. Il reste plus grand temps où ce qui est l'heure qu'on s'en va le rejoindre. Si c'est la dernière heure, le 2000 ans, aujourd'hui, ça, c'est juste sur le bord qu'on décolle. Puis si on se le demande face, il est quelle heure face à l'âge que je suis rendu? Mais déjà, s'il y en a qui sont rendus dans les 70, c'est déjà, il reste plus grand temps. Puis s'il y en a d'autres qui sont rendus dans 60, 50, 40, 30, ben on ne sait pas quand est-ce qu'on va décoller. Puis de quelle pensée je devrais être animé quand que je pense, il est quelle heure présentement face à Dieu? Je devrais dire, il est l'heure que je me prépare parce qu'il n'en reste pas long. Qu'est-ce qui me dit que je vais être en colonne demain?
Personne. Seul Dieu le sait.
Lui savait, le Seigneur, qui est à l'heure, est venu. L'heure est arrivée où ce que le Fils de l'homme devait être glorifié. C'est à quoi être glorifié dans ce sens-là? C'est qu'il fallait qu'il meure sur la croix. C'est pas réellement une gloire, si on y pense comme fou, là. Et lui, il a dit, c'est l'heure que je sois glorifié, mais si tu regardes ce qui a passé, mais Jésus, il considère que les plus pires moments de sa vie, c'était ses moments les plus glorieux. Quand il dit que c'est l'heure que je sois glorifié, là, ça veut dire, le plus gros des souffrances que Jésus a pour vivre, c'était son moment le plus glorieux de sa vie. Si je me pose la question, puis si on pose la question aux chrétiens modernes, souvent on dit, on n'en veut pas de souffrance, on n'en veut pas de problème, on n'en veut pas de maladie, ou on n'en veut pas de combat, on veut pas de lutte, on veut une vie facile. Puis pourtant, Jésus, lui, avait de l'air envisager le plus pire de sa vie comme le moment le plus glorieux pour lui. Il dit, c'est, le Fils de l'homme doit être glorifié. Si on regarde aux yeux humains, c'est juste des souffrances. Si on regarde,
il voyait l'après.
Quand il regarde aux yeux de Dieu, Dieu voit ça comme le moment le plus glorieux de l'univers, de toute la création. Le Fils de l'homme, Jésus, Dieu lui-même, mourait sur la croix pour racheter l'ensemble de l'humanité. Il payait la dette des péchés de toute l'humanité. C'était le moment le plus glorieux de la création.
Courageux.
Il était courageux de voir ça sur ce côté-là, malgré que son corps puis son âme étaient troublés. On va le voir un peu plus loin. Puis si je me pose d'autres questions, à quelle heure qui est rendu pour moi? Dans Romains au chapitre 13, au verset 11, ça dit, c'est Paul qui parle, il dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Quelle heure qu'il est présentement, mais il est l'heure qu'on se réveille. Parce que quand on vit tant d'années dans la vie chrétienne, à un moment donné, des fois on se relâche. On se laisse aller, on prie moins, on lit moins la Bible. Ça nous tente quasiment pas d'aller à l'assemblée, ça nous tente d'en sauter une coupe, ça nous tente pas de se réunir dans la semaine. On veut faire le moins d'efforts, on s'endort. Puis on se laisse aller aussi sur le changement qu'il doit avoir dans notre vie. La transformation que Dieu veut faire, il veut nous libérer de nos péchés, il veut nous guérir de nos maladies, il veut nous transformer. Il y a un paquet d'ouvrages qu'il veut faire, mais on le néglige, on l'oublie, Puis là, la Bible nous dit qu'à l'heure qu'il est, il est l'heure de se réveiller. Il dit, car maintenant, le salut, il est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Plus que le temps avance, plus qu'on est proche du jour où qu'on va traverser dans l'autre vie.
J'ai hâte d'être à ses pieds.
Ouais, moi aussi. Puis ça sera pas long qu'on va l'être. Puis quand on va l'être, ça va être fini les problèmes, les troubles, les difficultés, les combats, les luttes de cette vie, de résister contre le péché, puis de combattre tout le temps contre le diable, puis contre notre chair. Ça va être fini. Mais en attendant, faut prendre garde de pas s'endormir spirituellement, puis de faire comme Jésus, être prête, sachant qu'il nous reste plus grand temps, c'est l'heure que je me réveille, c'est l'heure que je m'enligne pour 2012, là. Faut que je travaille pour Dieu. Faut que je laisse Dieu travailler dans ma vie, faut que je laisse Dieu m'utiliser pour travailler dans cette vie. Puis là, ça nous dit encore dans ces versets-là, « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de la livrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Qu'à l'heure qu'il est, il est l'heure de se réveiller, il est l'heure de s'équiper, puis il est l'heure de combattre. »
Amen.
Faut que ça arrête. Faut que l'ennemi, ça arrête. Ses attaques, ses pièges, ses dérangements où ce qui nous déroute puis nous attire dans des chemins qui est pas le chemin de Dieu, c'est un chemin parallèle qui est pas le chemin de Dieu. Il nous fait perdre du temps. Pis on n'est pas consacré à l'appel qu'il a mis sur nos vies.
C'est que tu te commets, mais c'est pas la vraie affaire.
Oui, puis ça peut être bien le fun pour notre corps parce que c'est bien divertissant. Il y a beaucoup de choses divertissantes dans cette vie, mais c'est pas nécessairement les choses du plan principal de Dieu pour nos vies.
C'est une illusion.
Est-ce que notre but, c'est de porter du fruit? Ça le devrait l'être. Parce qu'on sait que si on est là pour porter du fruit, puis que notre fruit demeure. Dieu veut qu'on porte beaucoup de fruits pour sa gloire. Il nous a comparé à une plante, puis il veut couper les branches inutiles. Il veut nous émonder pour que la sève du Saint-Esprit passe dans les bonnes branches, ça porte du bon fruit dans nos vies.
Ça fait mal des fois quand il coupe des branches.
Oui, ça fait mal des fois quand il coupe des branches. Mais Jésus nous dit ici, si tu veux emporter du fruit dans le verset 24 qu'on est en train de lire, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus, il parlait pour lui, là, dans ce verset-là. Il savait que l'heure était venue où ce que le Fils de l'homme va être glorifié. Il a dit, il fallait que le grain meure pour que ça porte du fruit. Quand on prend une graine de semence, là, quand il la met dans la terre, un grain de blé d'Inde, le grain, là, il pourrit puis il meurt. Puis après ça, il prend vie. Il pourrait pas pousser sans mourir. Il est pas mort quand il est sèche, il est mort quand il se détériore dans la terre une fois qu'il est semé. Là, il pourrit, puis après ça, la semence, le germe de vie pousse dedans, puis ça pousse. Puis c'est ça qui est l'exemple de ça. Il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre, il meurt pas. S'il meurt pas, il reste seul. S'il meurt, là, il va porter beaucoup de fruits. Puis ça, c'est une règle de la science d'aujourd'hui, ça. Les graines de semence meurent avant de pousser. Puis s'il meurt pas, elle va rester là, la graine. Elle va être emportée, elle va être mangée par un oiseau ou emportée par le vent, puis elle produira rien. Mais si elle meurt, elle va pousser. Mais Jésus dit cet exemple-là pour lui. Il dit qu'il sait que le temps est arrivé où il doit s'en aller. Puis il fallait qu'il meure pour qu'il y ait beaucoup de fruits. Mais il dit aussi pour nous autres. Si on veut porter du fruit en 2012, il faut apprendre à mourir à soi-même. Puis si on y croit, si on s'arrête vraiment là sur les autres passages qui parlent exactement la même affaire, avant même de devenir chrétien, quand tu dis que tu vas accepter Jésus, faut que tu sois déjà prête à mourir à toi-même avant de l'accepter. Ça disait dans Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Oui.
J'ai de la misère à comprendre le 25, le verset 25. Celui qui aime sa vie, il la perdra. Comment tu peux perdre une vie si tu l'aimes ta vie?
Bon, c'est justement ça qu'on va regarder dans les deux passages qu'on vient de lire. Dans Matthieu 25, je vais leur lire, celui qui aime sa vie, il va la perdre. Puis celui qui a sa vie dans ce monde, il va la conserver pour la vie éternelle. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ça veut nous enseigner que quand le Seigneur nous prête la vie, parce qu'en fin de compte, il nous a jamais donné la vie, on marche du temps emprunté. Notre vie ne nous appartient pas. Dieu, il est le propriétaire de notre vie. Il est le propriétaire parce que c'est lui qui nous a créés, puis il nous a prêté notre vie pour le temps où on vit. 30 ans, 50 ans, 70 ans, c'est une vie prêtée, c'est du temps prêté. Puis un jour, il va venir nous l'enlever.
Puis quand Jésus est mort pour nous, puis quand on était sauvés, on était comme achetés pour le prix de sa
vie. Oui, on était rachetés.
Fait que là, notre vie appartient à Dieu.
Elle appartient deux fois plus à Dieu parce que elle lui appartient en partant parce qu'il nous l'a prêté. C'est lui qui nous l'a créé. C'est lui qui nous a donné la vie. Donc, en partant, elle lui appartenait. Mais avant d'être rendu à l'étape où ce que tu parles, fait que là, je suis pas propriétaire, mais je suis quand même libre de disposer de ma vie comme que je veux. Tout le monde sur la terre sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur vie. Dieu a créé les humains libres. On est tous libres de faire ce qu'on veut. Autant le pire rebelle sur la terre, il est libre de faire de son temps ce qu'il veut. Puis s'il veut faire de la méchanceté, puis il aime la vie d'être séparé d'avec Dieu, puis s'il aime sa vie, il va la conserver. Juste pour le temps terrestre. Mais il va la perdre après s'il ne va pas à Dieu pour pouvoir avoir la vie éternelle. Le point est-ce que j'aime assez ma vie pour dire, non Seigneur, je te la donne pas ma vie. Je la garde. J'aime ma vie, je veux faire ce que je veux. Je veux être au contrôle de ma vie, puis je veux faire mes idées, mes buts, mon alignement dans cette vie. Je veux faire ce qui me plaît. Ou, Dieu nous dit une autre affaire, il dit, viens à moi. Tu veux venir à moi? Il dit, renonce à toi-même. Prends ta croix. Il dit, renonce à toi-même. Ça veut dire, arrête de vivre pour toi. Arrête de penser que tu vis pour toi.
Pour Dieu.
À partir du moment que tu vas réaliser ça, puis il va dire, renonce à toi-même. Prends ta croix. Et suis-moi. Et celui qui conserve sa vie, il va la perdre. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera pour la vie éternelle. Ça, c'est un deal que le Seigneur est en train de faire. Il nous met face à un deal. Il nous dit, je t'ai prêté tes, mettons, 50 ans ou tes 70 ans, je te les prête. T'es libre de faire ce que tu veux avec. Mais Jésus dit, donne-moi-les. Renonce à vivre pour toi. Renonce à vivre pour tes affaires. Fais-moi confiance, là. Donne-moi-les, puis vis pour moi. Suis-moi.
Mais des fois, tu sais, tu regardes des acteurs ou des chanteurs qui sont fameux, qui sont millionnaires, qui font un vie de luxe, puis souvent, ces gens-là, ils font le suicide, ils deviennent alcooliques, ils sont malheureux. Parce qu'ils vivent pour eux, mais ils sont vides à l'intérieur, tu sais.
Ouais.
Puis il me semble que quand on sert le Seigneur, on est tellement rempli, là, on est bien.
Oui.
Puis il n'y a rien qui peut comparer à ça. Il n'y a pas un million de dollars qui peuvent nous remplir comme le Saint-Esprit.
Oui, ça on peut le dire parce qu'on l'a expérimenté. Mais l'autre, là, celui qui a sa petite vie, puis il dit, j'aime ça à vivre, moi. Puis mes plaisirs, puis ma richesse, puis la gloire, puis le monde qui court après moi pour avoir des autographes, ça y fait une certaine récompense. Puis là, le gars, il est-tu prêt à renoncer à sa vie? Puis qu'est-ce que Jésus a dit? Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Hein? Jésus a dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à ses richesses.
Mais nous autres, ici, on a nos affaires. On voudrait-tu aller en Afrique et servir le Seigneur comme missionnaire?
Si Dieu nous appelle, oui.
Puis aller à des gros bébés, on voudrait-tu?
Je l'ai fait. Moi, j'ai vendu ma maison, puis j'ai vendu tout ce que j'avais, puis je suis parti pour aller au Mexique pour un temps que je ne savais pas combien de temps, puis le Seigneur m'a montré, l'a rendu là-bas. Que c'était ici au Québec qui m'appelait. Mais je l'ai fait. J'ai tout vendu. J'avais un appel de Dieu. Puis j'ai fait un pas de foi. J'ai fait confiance au Seigneur. Puis le Seigneur, il a pourvu à tous mes besoins dans cette période-là. Mais quand on apprend à faire confiance à Dieu, Dieu nous utilise dans cette vie. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi dans Jean 15, 5? Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous pouvez rien faire. À partir du moment que tu renonces à ta vie, tu renonces à toi-même, que tu prends ta croix, puis tu le suis, tu viens de rentrer en contact avec lui. Parce que là, tu t'engages à le suivre, il te donne son Saint-Esprit, il y a une nouvelle vie qui commence avec toi. Puis là, il dit, t'es attaché à moi, là, au cep, là. Moi, je suis le pied du cep, puis toi, t'es branche. Et si tu demeures attaché après moi, tu vas porter plein de fruits. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse dans notre vie pour 2012? Il veut qu'on porte beaucoup de fruits. C'est quoi le critère pour emporter, à première vue, là, comme qu'on a vu dans ces versets-là, c'est quoi qui est le critère, le premier critère que je dois avoir pour emporter du fruit? Faut que je sois attaché à Jésus. Puis le deuxième critère, ce qu'on vient de voir, il faut que je renonce à moi-même. Parce que tu peux être chrétien, même après 25 ans, 30 ans de vie chrétienne, puis continuer à penser rien qu'à toi. Puis pas penser en fonction de l'œuvre de Dieu, du plan de Dieu, de servir Dieu, de marcher pour Dieu, de combattre avec Dieu, de travailler dans son œuvre. Puis il faut se remettre en question, là. Est-ce qu'il est l'heure? Quelle heure qui est rendue dans ma vie, il est le temps, il est l'heure que je me réveille? Quelle heure qui est rendue, il est l'heure, je t'avais de partir?
Il est tard.
Il est rendu tard. Surtout quand ça fait, mettons, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, je suis chrétien. Il est rendu bien avancé. L'heure est bien avancée. Il me reste plus grand temps. Le petit peu de temps qui me reste, là, faut que je le mette pour le service de Dieu. Faut que j'arrête de niaiser. Y a-t-il un amen à cela? Mais comme Jésus, lorsqu'on poursuit notre appel, parce que Jésus, lui, c'était son appel, c'était le plan que Dieu avait préparé pour lui. Fallait qu'il aille mourir sur la croix. C'était décidé, ce plan-là, avant même qu'il vienne au monde. C'était décidé dans le temps éternel. Fait que quand il était là, sur la terre, il était décidé, lui-là, il était résolu à avancer dans le plan de son Père. Il savait qu'à l'heure qu'il était rendu. Lui, il était décidé de poursuivre l'appel, mais il était confronté à une dure épreuve. C'était le moment le plus difficile de toute sa vie. C'était facile parler du royaume de Dieu. C'était juste de l'opposition une fois de temps en temps. C'était facile guérir des personnes puis de ressusciter d'autres personnes. C'était quand même facile. Mais quand c'était le temps de mourir sur la croix, ça faisait partie du plan de Dieu pour sa vie. C'était plus facile. C'était difficile. Qu'est-ce que Jésus a dit au verset 27? Il dit, maintenant, mon âme est troublée. Savez-vous c'est quoi avoir une âme troublée? Il y en a des fois qui ont l'âme troublée, ils sont obligés d'aller chercher des pilules pour ça. Ils vont chez le médecin, ils vont chercher des troubles. Un trouble dans ton âme, tes émotions, tes pensées, t'es tout troublé. C'est ce stress-là qui est comme une forme d'angoisse, un tourment. Appelons ça comme dans différents mots, là. Ça arrive à des personnes quand on a des moments difficiles. Jésus a passé par là, il sait que c'est quoi. Là, dans son moment de trouble, il dit, « Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu. » Quand il était face à dire, « Fallait que le Fils de l'homme soit glorifié », Faut qu'il meure sur la croix. Faut que le grain meure pour qu'il porte beaucoup de fruits. Puis là, il commençait à être troublé. Il dit, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, Seigneur, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cette heure-là que je suis venu. C'était sa mission, mourir sur la croix. Fait que, qu'est-ce qu'il a répondu? Ben, nous autres même, là, si on est appelé à poursuivre un chemin pour Dieu, puis Dieu nous appelle à souffrir dans notre chemin, comment est-ce qu'on va réagir? Seigneur, enlève-moi ces problèmes-là, je veux pas vivre rien de difficile, je veux avoir une vie facile. Ça se peut-tu qu'en tant que chrétien, qu'on ait des difficultés à vivre? Des combats, des luttes, des problèmes médicaux? Hein, nomme-les, tu peux en faire une liste. Puis des attaques de l'ennemi en plus. Pas ça qui manque. Puis quelle idée qu'on va se faire face à son appel. Oh, moi je suis tanné, je longe tout. Ou je vais faire comme Jésus. C'est pour ça que j'ai été appelé, puis je dois persévérer. Oui.
Sais-tu, ça dérange-tu de prendre des médicaments quand on est troublé?
Non, non, ça dérange pas. Ce qui dérange, c'est de laisser tout tomber. Okay. C'est de passer à travers avec qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on a. Des fois, on a des problèmes dans notre corps, c'est normal, Dieu veut qu'on soigne. Si le gars, il a une jambe cassée, c'est sûr qu'il va se mettre à un plâtre, même s'il est chrétien. Puis s'il boite, il va prendre une béquille. Mm. C'est normal, c'est pas un mal. Ou si on a un problème dans nos émotions ou dans nos pensées, il y a des médicaments pour ça. Le problème n'est pas ça. Le problème, c'est face aux difficultés, est-ce que je vais reculer? Est-ce que je vais retourner dans mon autre vie? Dis-moi, là, la vie chrétienne, c'est trop dur. Je lâche tout.
Oh non, c'est bien plus fun qu'on pense.
Surtout avec les promesses qui sont rattachées.
Les récompenses aussi.
Oui. Parce qu'il y en a une récompense que j'ai pas dit tantôt, là, dans un verset, j'ai passé tout de suite au verset 25, il dit, celui qui aime sa vie, il va la perdre. Celui qui l'aime puis qui la garde, il va la perdre. Mais celui qui ait sa vie dans ce monde, il va la conserver pour la vie éternelle. Il dit, quelqu'un me sert, qu'il me suive, puis là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si tu te mets à suivre le Seigneur dans ta vie, mais cherche pas, tu t'en vas le rejoindre. Tu t'en vas le retrouver. Tu vas être à la même place où ce qui est présentement.
Tu sais, quand il dit celui qui aide sa vie, est-ce que ça veut dire parce que tu as bien des problèmes et des choses comme ça?
Non, c'est que soit que tu aimes ta vie puis tu veux rien savoir de la vie de Dieu, là tu cours après les choses qui te sont dans ta vie, ou tu haïs ta vie en haïssant le péché qui est dans la vie, notre vie de rébellion qu'on fait face à Dieu. On haït et marcher d'une manière qui déplaît à Dieu. On haït nos paroles méchantes, on haït nos pensées mauvaises, on haït nos agissements qui sont pas corrects, puis on veut que ça change. Fait qu'on donne notre vie au Seigneur, puis on croit que le Seigneur nous pardonne, puis il nous purifie, puis il nous transforme. Puis faut que tu haïsses ta vie avant d'aller à Jésus. Parce que si tu aimes encore ta vie, puis tu vas à Jésus, t'es-tu dans repentance? T'es-tu en train de regretter qu'est-ce que t'as fait? Si tu n'as aucun regret de ta vie, si tu ne le regrettes pas que t'étais adultère, que t'étais voleur, que t'étais menteur, si tu ne regrettes pas, là, tu l'aimes ta vie, mais tu chercheras pas à changer. Jésus, il dit, il est pas venu pour ceux qui se portent bien, il est venu pour les malades. Ça veut dire que quand tu réalises que t'es pas correct, puis tu t'haïs ça de pas être correct. Fait que tu sais que t'es pécheur. T'haïs ça. Fait que tu sais que Jésus est venu pour te pardonner. Tu vas aller au médecin, puis tu vas vouloir être soigné. Tu vas vouloir être pardonné de tes péchés. Tu vas vouloir qu'il te donne le Saint-Esprit. Tu vas vouloir que ta vie change. Tu vas vouloir aussi toutes ces promesses qu'il y a dans sa parole, comme il dit, celui qui me sert, le Père l'honorera. Ça, c'est quelque chose. Dans le verset 26. Si quelqu'un me sert, le Père va l'honorer. Qu'est-ce que ça veut dire, honorer? Il donnait des honneurs. C'est tout simple que ça. Honorer, c'est donner des honneurs. Dieu, il a déjà dit dans sa parole que si tu veux servir Jésus, Tu veux servir Dieu le Père, mais Dieu, il va t'honorer. Il va te donner tous les honneurs. Est-ce que Jésus a eu ses honneurs? Pas encore. Il est mort sur la croix. Il n'a pas eu aucun honneur sur la terre. Il y a certains honneurs après que c'est ressuscité dans le ciel, mais ses honneurs n'étaient pas sur la terre. Quand est-ce qu'il a servi Dieu? Quand est-ce qu'ils vont être nos honneurs? À nous. Il dit, celui qui sert le Père va l'honorer. Quand est-ce qu'ils vont être nos... Quand on va être mort. Quand on va arriver l'autre bord. Il va nous prendre, puis il dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. On va aller rejoindre le Seigneur, puis on va participer à tous les honneurs que le Seigneur a déjà préparé, le festin des noces de l'agneau. On va être des rois et des seigneurs, puis on va régner pour l'éternité. Ça va être extraordinaire. Un jour, si Dieu le permet, je vais l'emmener comme étude. Qu'est-ce qui nous attend en tant que chrétiens quand on va arriver là au bord? Ça n'est une belle étude, ça. Dieu va nous honorer, nous donner plein d'honneur. Les anges vont acclamer les élus qui vont rentrer dans la ville sainte. Où est-ce qu'on va être dans une vie parfaite de joie, de paix, d'amour, de gloire pour l'éternité?
De chant.
Oui. Ça va être extraordinaire. Mais en attendant, puis pour aujourd'hui, à quelle heure qu'on est rendu, il ne reste plus grand temps, on est en 2012. Qu'est-ce qu'on prévoit pour 2012 face aux difficultés qu'on va avoir à traverser comme Jésus? On va-tu avoir le goût de reculer?
Moi, j'ai envie de foncer et essayer de régler mes bubettes.
Ah ouais.
Je me donne comme objectif.
Le Seigneur.
Il faut que ça s'aide avant que l'heure arrive.
Oui. Puis à chaque jour, il faut que tu remettes les choses de ta vie entre ses mains, tu y fasses confiance. Puis Jésus savait, mais c'est pour ça que je suis arrivé dans cette heure. C'est pour passer par là. Je ne demanderai pas à mon Père de me délivrer de cela. Il faut que je l'accepte. Et des fois, on n'a pas le choix. Il faut accepter notre chemin. Puis y aller avec persévérance, avec joie. Même si ça n'a pas de l'air d'être joyeux.
Imagine ceux qui sont en prison.
Oui. Il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont persécutés, il y en a qui sont mis à mort, il y en a qui sont battus en tant que chrétiens. Le chemin, c'est la torture, et ainsi de suite.
Psychologique aussi. La torture physique, ça fait mal, oui, mais la torture psychologique, ça peut faire encore plus mal parce que ça joue avec les émotions.
Oui. Quand on est face à notre vie, là, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'accepter notre appel. Dieu nous a appelés à prendre notre croix et le suivre. Il faut accepter notre appel. Puis c'est le meilleur choix. Je finis avec un dernier verset, au verset 28. Lors de notre décision de suivre Jésus, le Père, là, quand Jésus a déclaré ça, ben c'est pour cette heure que je suis venu. C'est ça que Jésus a dit. Puis après ça, il dit, Père, glorifie ton nom. Let's go. Glorifie ton nom. Que ça s'accomplisse. Puis que ton nom soit glorifié dans tout ce que j'aurai à vivre. C'est ça. C'est l'acceptation du plan de Dieu. Puis de l'accepter comme, let's go, on y va. C'est ça que Jésus a dit. Dans le verset 28, il dit, Père, le verset 27, il dit, mais c'est pour ça que je suis venu jusqu'à cette heure. Mais Père, glorifie ton nom. Là, qu'est-ce qui est arrivé quand il a dit ça? Il y a une voix qui vient du ciel, la voix du Père, puis il a dit, je l'ai glorifié, puis je le glorifierai encore. Dieu le Père, il a répondu à son Fils quand il est en train de dire ça, puis il dit, je l'ai glorifié mon nom. À plusieurs reprises, Dieu a glorifié son nom dans cette vie. Puis il va le glorifier encore par qu'est-ce que Jésus a vécu et par qu'est-ce que les disciples vont vivre. Dieu va glorifier son nom aussi à travers de chacun de nos vies. Moi, dans le chemin que j'ai à suivre, je glorifie le nom du Père, puis Dieu va glorifier son nom dans ma vie. Dans chacun de vous, Dieu va glorifier son nom. Qu'est-ce qu'on répond pour 2012? Qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur? On va-tu faire comme Isaïe? Dieu dit, qui enverrai-je? Puis lui a dit, me voici. C'est, je pense, c'est ce qu'il faut faire. Il faut s'offrir à Dieu et dire, Seigneur, tu as préparé un chemin pour 2012. Me voici. J'embarque dans ton chemin, puis je veux te suivre, puis persévérer jusqu'à la fin. Puis je sais que tu vas glorifier ton nom dans tout cela.
On peut te dire, je serai où ce que tu veux. On va être où est-ce que Dieu veut qu'on soit.
Ben oui.
C'est ça.
C'est ça.
C'est ça, dans le fond. Pour être où est-ce que Dieu veut qu'on soit.
Oui. Fait que c'était ça le partage. C'était dans le but de s'encourager à persévérer pour 2012. À persévérer dans les voies du Seigneur. Puis à s'armer de la même pensée que le Seigneur. Si lui, il s'est armé de la pensée, je passe par là, c'est le plan de Dieu. Père, glorifie ton nom. Mais il faut s'armer de la même pensée, dis-moi. Dieu a des choses devant moi. À moins qu'on ne pense pas qu'on soit dans le plan de Dieu. Ça, c'est une autre affaire. Avez-vous des doutes là-dessus? Pensez-vous que vous êtes dans le plan de Dieu?
Oui. Moi, je
si vous pensez que vous êtes dans le plan de Dieu, Dieu a préparé des œuvres pour chacun de nous. Il a préparé notre chemin. C'est son chemin qu'on veut suivre. Fait que si tu t'es engagé à suivre le Seigneur, il va nous guider dans ses œuvres qu'il a préparées pour nous, puis il va glorifier son nom dans tout ça. On est-tu prêt à vivre pour la gloire de Dieu?
Amen.
C'est ce que le Seigneur est content de voir.